les formes que revêt une idée, parce qu'elles sont de l'ordre spirituel, retiennent du passé tout ce qu'il contient de valeur et de vérité. Je prends un exemple pour saisir cela. Dans le domaine de l'automobile, un nouveau modèle d'automobile souvent déclasse le modèle précédent. Et on ne parle plus du précédent. Certaines théories scientifiques nouvelles répudient des doctrines antérieures. Mais dans le développement de l'idée chrétienne, il n'en va pas comme ça. Il n'y a pas des choses qui deviennent périmées et qu'on remplace par d'autres. Il y a toujours une conservation active du passé. Le premier concile de Constantinople intègre le concile de Nicée. Celui d'Éphèse, celui de Chalcédoine, il ne répudie pas, on ne remplace pas un concile par un autre. Et aujourd'hui, après Vatican I et Vatican II, le concile de Trente n'est pas répudié. Le critère d'authenticité du développement, c'est que le passé est intégré. C'est une des raisons pour lesquelles Benoît XVI a tenu à ce qu'on appelle l'usage extraordinaire du rite romain demeure présent. Qu'on ne dise pas la nouvelle forme répudie l'ancienne. Non. L'Église ne procède pas par discontinuité, mais par intégration. La conservation active du passé. Sixième note d'un vrai développement. Et enfin, septième critère proposé par Newman, c'est la vigueur de la durée. Le signe de la fécondité de l'idée et de la justesse du développement, c'est que cela dure, que ce n'est pas un feu de paille, que ce n'est pas une innovation qui va durer, il n'y a rien de plus passager que l'actualité, qui va durer un moment, puis on n'en parle plus. Ce qui ne dure pas, ou bien se corrompt, ou bien s'en va lentement vers la mort. La durée est toujours une épreuve pour les idées et elle teste leur vigueur. Un développement véritable suppose la vigueur dans la durée. Voilà les sept critères que Newman propose pour discerner les vrais changements des faux changements religieux. Et ce qui importe pour lui, c'est la convergence de ces sept critères. Un seul critère tout seul ne suffit pas. Il faut la convergence de ces sept critères pour s'assurer qu'un développement est harmonieux. Et dans la dernière partie de son essai sur le développement, Newman a tenté de montrer comment ces divers critères étaient vérifiés et de manière convergente dans la doctrine de l'Église catholique. Mais comme plus il avançait, plus il était évident pour lui qu'il devait se tourner vers l'Église catholique comme le lieu de l'authentique développement de l'idée chrétienne, comme je vous l'ai dit, il a été de plus en plus vite pour écrire la vérification de chacun des critères, une écriture même un petit peu négligée à la fin, tellement il était pressé d'arriver au but et d'entrer effectivement dans l'Église catholique. Il y a cependant, au début de cette dernière partie, il y a cependant un chapitre où il donne un exemple de la manière dont l'Église catholique présente un authentique développement, fidèle à l'idée originelle. C'est le critère de la continuité des principes. Les diverses doctrines n'ont de consistance que si elles sont cohérentes avec les principes qui se continuent en elles. Et Newman indique quels sont, à ses yeux, les les principes majeurs de l'idée chrétienne. Et il cite les suivants, qui me paraissent de fait très remarquables, une très belle approche. Quelle est l'inspiration maîtresse de l'idée chrétienne? C'est tout d'abord et essentiellement, comme je vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure, l'incarnation, la vérité centrale de l'évangile humain, et qui engendre une série de principes. Tout d'abord, le principe dogmatique, selon lequel la vérité révélée, bien que transmise dans un langage humain, garde un caractère absolu. Elle vient d'en haut. Dans l'incarnation, celui qui se fait homme demeure Dieu tout en devenant homme. De même, la vérité révélée, elle s'incarne. Nous n'avons pas la même manière de parler de la foi chrétienne aujourd'hui qu'au premier siècle. La formulation concrète a évolué à travers les siècles. Mais ça ne doit pas empêcher la vérité explicitée dans ces diverses doctrines d'être une vérité qui nous dépasse et qui a une valeur absolue. C'est ce qu'il appelle le principe dogmatique. La vérité révélée, bien que transmise dans un langage humain, le langage du Concile de Trente n'est pas le même que celui du Concile d'Éphèse. C'est un autre type de langage, mais au service de la même vérité transcendante. En corrélation avec la révélation, vous avez la foi. La foi, c'est la démarche par laquelle nous adhérons à la vérité révélée, même chose, même principe de l'incarnation. Parce que la foi est donnée, elle nous dépasse, mais parce qu'elle est donnée à un être doué de raison, doué d'intelligence, elle suscite la réflexion, l'intelligence. En même temps, nous accueillons une vérité qui nous dépasse, et en même temps, nous la travaillons avec les ressources de l'intelligence humaine. C'est ce qui donne le principe de la théologie. Le principe sacramentel. Le salut nous est donné par la médiation du Christ. Dieu rencontre l'homme par toutes les réalités visibles que le Christ assume dans son incarnation. Le principe sacramentel. Donc Dieu nous parle à travers l'humanité de Jésus. Eh bien, un signe de fidélité, du développement, c'est qu'on sera fidèle au principe de l'incarnation, à savoir notamment au principe sacramentel. Il faut toujours interpréter l'Écriture et vivre les sacrements en référence à Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Autre principe, les principes de la grâce. Et en même temps de l'ascétisme, la grâce, le don de Dieu, mais aussi l'ascétisme, l'effort de l'homme. Le principe du réalisme du péché, prendre au sérieux la nature humaine telle qu'elle est maintenant, blessée. Tout cela commande l'anthropologie chrétienne, la conception chrétienne de la nature humaine. Autre principe mentionné par Newman, la dignité du corps. Dans l'incarnation est assumée la condition, est assumée par Dieu, par le Verbe de Dieu, est assumée la condition matérielle et charnelle de l'homme. L'anthropologie chrétienne devra donc toujours respecter ce principe de l'incarnation et notamment de la dignité du corps. L'Église va lutter pour maintenir la résurrection des corps. Qu'on ne déprécie pas le corps, que l'entoure de respect. L'Église s'est battue pour le respect du mariage, contre les hérésies qui sous-estimaient le mariage en disant « Oui, mais ça passe par toute cette intendance du corps humain, de la sexualité humaine. » Non, la dignité du corps est toujours à maintenir dans la logique du principe de de l'incarnation. Bien, à partir de ce critère, la continuité des principes, Newman fait voir comment, dans les premiers siècles, il y a eu les diverses hérésies qui ont écarté l'un ou l'autre de ces principes, et parfois plusieurs, et parfois même tous en même temps. Et comment, par contre, tous ces principes sont demeurés vivants en continuité dans la communion romaine, dans la communion de l'Église catholique. Exemple donné par Newman, la réforme protestante, en innovant, en lançant le principe du libre examen. Chaque fidèle, dans son dialogue personnel avec l'Esprit Saint, chaque fidèle pratique le libre examen de la doctrine qu'il accueille ou qu'il n'accueille pas. Eh bien, en inaugurant ce principe du libre examen, dit Newman, la réforme protestante a mis en danger le principe dogmatique. Comme si nous étions les juges de la vérité chrétienne. Elle a compromis le principe de la foi comme réponse à la révélation et le principe de la théologie comme produite dans la foi par la réflexion de l'intelligence. À l'inverse, l'enseignement de Rome, dit Newman, dans toutes ses doctrines, témoigne d'une totale fidélité à ses principes.